BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann Anthony Noguès.
Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Bruxelles frappée en plein cœur cette semaine, évidemment, avec cette attaque terroriste, ces différentes attaques terroristes coordonnées à la fois à l'aéroport Zaventem, Brussels Airport et la station de métro Malbec. Nos pensées, évidemment, sont pour les victimes et leurs familles. La station Malbec se trouve à 200 mètres à peu près de notre bureau, du bureau BFM TV, BFM Business, au cœur de la capitale européenne. Cette émission est enregistrée chez notre partenaire Euranet, d'où ce nouveau studio, car nous n'avons pas pu avoir accès à notre studio habituel en raison de ces attentats terroristes. Bonjour Maya de la Baume.
Bonjour Yannick.
Journaliste de Politico. Avez-vous été personnellement affecté cette semaine par ces attentats?
Ben comme vous, notre bureau est à une centaine de mètres de la station Malbec, donc oui, on a été affecté.
Et c'est des attentats qui avaient pour cible clairement à la fois le Royaume de Belgique et l'Union européenne.
Oui, parce que la rue de la Loi, ben, c'est le cœur des institutions européennes. On est à quelques centaines de mètres de la Commission européenne. On est très très près du Parlement. Il y a eu d'ailleurs des employés de la Commission européenne qui ont été touchés par ces attentats. Je sais aussi qu'il y a des membres du Parlement européen qui y étaient. Oui, les terroristes n'ont certainement... c'était pas un hasard s'ils ont touché cet endroit-là, puisque c'est très symbolique. Voilà, c'est Malbec. C'est aussi un lieu où il y a énormément de bureaux de lobbyisme. Par hasard, c'est pas juste les institutions européennes, c'est beaucoup de lobbyistes. Et nous, on a connu des gens qui étaient des lobbyistes qui étaient présents dans ces stations de métro.
Les attaques terroristes infligent toujours de grandes souffrances, hein, et la perte de vie humaine, c'était le cas cette semaine. Mais dans cette émission, nous allons parler des conséquences économiques de ce type d'attentat terroriste. On va revenir sur les attaques en France le 13 novembre et on va revenir sur ces attaques ici à Bruxelles du 22 mars 2016. Bonjour Charles de Marcy.
Bonjour Yann Anthony.
Directeur du bureau de la Fondation Robert Schuman ici à Bruxelles. Alors, à l'aéroport, ce sont notamment les guichets 4 et 5 du terminal de départ de Brussels Airlines qui ont été touchés. Il y a eu une détonation, il y a eu une bombe à cet endroit-là. C'est là que le plafond s'est écroulé. Personnellement, je passe là au moins une fois par semaine, de même que je prends ce métro. Est-ce que vous avez été aussi affecté par, à titre personnel, par ces attentats?
Affecté, oui, parce qu'à un quart d'heure près, moi, mon épouse, on peut y passer. Tout le monde ici à Bruxelles, dans le quartier européen, qui travaillent, comme Maya vient de le souligner, dans cet environnement, ils passent au minimum 3 ou 4 fois par semaine. Donc on craint toujours qui est-ce qui va être présent, est-ce qu'on a des proches qui ont été touchés. Puis à titre plus personnel, j'étais moi à Washington le 11 septembre 2001, où il y avait un peu le même sentiment, où on voit sur les écrans le deuxième avion qui rentre dans les tours. On est spectateur et en même temps, ça arrive à Washington dans le Pentagone et on se dit, ah, je peux être aussi acteur. Et là, c'est exactement ce qui se passe ici. On est sur cette ambiguïté en suivant sur les télévisions, sur les réseaux sociaux, de voir comment est-ce que ça se passe et dire, mais je travaille à 300 mètres. Et
alors, les conséquences économiques du tourisme, quelles sont les conséquences sur l'économie, sur le climat de confiance, sur les investissements? Bonjour Bruno Wattenberg.
Bonjour Yann Anthony.
Alors, vous êtes belge, vous êtes chroniqueur pour Bell RTL. Tous les matins, oui. On peut entendre vos analyses économiques dans la matinale de notre confrère, la première radio privée en Belgique, Franco. Vous êtes également à la tête de l'agence bruxelloise de l'entreprise. Quelle a été, dans un premier temps, la réaction des marchés à ces attentats de Bruxelles?
Alors, extrêmement faible, puisqu'on a eu une légère augmentation des marchés du bel vin, de notre indice belge, le premier jour et le deuxième jour également. Et donc, les marchés ont plutôt réagi face à des nouvelles extérieures et n'ont pas surréagi par rapport aux attentats. Et c'est une situation qui n'est pas étonnante. C'est ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu d'autres attentats à Madrid, à Londres, ou même aux États-Unis.
Alors justement, on va y revenir. Allez, parmi les conséquences économiques de ces attentats, eh bien, le terrorisme réduit l'afflux de capitaux étrangers en provoquant une baisse de la fréquentation touristique et puis le volume des investissements étrangers directs. L'insécurité aussi modifie les habitudes de consommation et puis il y a le renforcement des coûts de sécurité qui engendrent des coûts indirects. Voilà, les conséquences économiques du terrorisme, c'est le programme de 500 millions d'Européens cette semaine pour réagir. Hashtag 500ME. Alors mardi matin, au moment des attentats, des attaques ici à Bruxelles, le président de la République, François Hollande, recevait justement à l'Élysée des investisseurs, une trentaine d'investisseurs étrangers représentant des grands groupes internationaux. Et il les a appelés à avoir, je le cite, confiance dans l'avenir, à ne pas hésiter à investir en France et en Europe et à ne pas reculer face au terrorisme. C'est parce que pour le chef de l'État, une façon de surmonter cette épreuve, eh bien, c'est d'être capable de faire le choix de l'avenir, d'investir, d'innover, de faire en sorte que rien ne puisse nous faire renoncer à ce que nous sommes, rien ne puisse nous faire reculer. Voilà ce qu'a dit le chef de l'État, d'où l'importance du facteur économique suite à ce type d'événement. Bruno Wattenberg, est-ce qu'on peut déjà chiffrer les conséquences d'un attentat tel que celui de mardi dans la capitale européenne ?
Alors, il faut distinguer le coût direct. Au niveau des dégâts, on commence à avoir un petit peu une idée. On parle de 400 millions d'euros. Au niveau de l'aéroport, ben, chaque jour de fermeture...
Pourquoi 400 millions d'euros, en fait,
c'est... Alors, parce que les infrastructures, là, c'est typiquement la remise en service des infrastructures. L'aéroport, une station de métro au cœur du quartier européen, eh bien, ça fait des dégâts et ça va faire des mois de travail pour pouvoir relancer ces infrastructures.
Et ça a été chiffré comment, en fait ?
Alors, ils ont fait rapidement des estimations sur en ayant une première idée. Alors, bien évidemment, on n'est pas dans une granularité extrêmement fine, mais le coût de la remise en état de ces infrastructures-là, c'est 400 millions d'euros. Et l'aéroport, on est à 10 millions d'euros par jour de fermeture, ce qui va s'ajouter à ces 400 millions.
Bien sûr, l'aéroport Brussels Airport qui a été fermé quelques jours parce qu'il n'y avait plus aucun vol, ni au départ, ni à l'arrivée, et l'ensemble du trafic aérien avait été dévié vers les aéroports de Charleroi-Liège.
Et dans les pays voisins.
Et dans les pays voisins. Alors, après les dégâts physiques, matériels, dus à l'explosion, finalement, quelles sont, Bruno Wattenberg, les autres conséquences économiques d'un attentat tel que celui vécu par Bruxelles ce mardi ?
Eh bien, outre ces 400 millions de remises en état d'infrastructure, et on n'est que dans des évaluations pour l'instant, on peut estimer qu'il y aura un impact sur le produit intérieur brut. Ça va se chiffrer en quelques points de pourcent. Et donc, a priori, ce qui est les premières analyses que nous avons de chief economist nous laissent dire que ça pourrait monter à 4 milliards d'euros de coûts pour le produit intérieur brut, ce qui n'est quand même pas négligeable, alors qu'on est en train de se battre pour rester dans les clous des objectifs européens.
Et pourquoi, en fait, compose ces 4 milliards ?
Alors là-dedans, on va voir plusieurs choses. Bien évidemment, on va augmenter les mesures de sécurité. Ça va avoir un coût pour les pouvoirs publics, ça va avoir un coût pour les entreprises. On va aussi devoir augmenter quelque peu le budget de l'État sans que ça permette réellement de pouvoir avoir un investissement qui va dégager des avantages pour le pays. La France est à 600 millions d'euros. On est encore en train de chiffrer le coût de la présence policière dans les rues en Belgique. Ensuite, il y aura bien évidemment un impact sur la confiance des ménages et des entreprises. Ce n'est pas ce type de climat qui est propice à la prise de risque entrepreneurial. Donc on va avoir probablement un petit ralentissement. Donc l'un dans l'autre, on peut estimer qu'on va être dans un coût qui va quand même être extrêmement important. Et le coût qui sera le plus important, le plus douloureux à court terme, ça va être l'impact sur le tourisme et sur le commerce. Nous avons une part importante de notre produit intérieur brut qui est le tourisme. Et donc là, vous n'aurez probablement pas envie de venir faire un mini-trip à Bruxelles. Alors que personnellement, mon sentiment d'insécurité en tant que Bruxellois qui vit et travaille... n'est pas du tout élevé.
Oui, c'est intéressant, Charles. Mardi, évidemment, le jour des attentats, les portes des cafés, des restaurants, des commerces, et puis de l'ensemble des bâtiments et institutions ont été closes.
Oui, et cette semaine, c'était assez manifeste, parce que pour arriver à Bruxelles, pour arriver même dans le quartier européen, mercredi ou jeudi, tout était fermé. Pour sortir du métro, vos sacs étaient fouillés par les militaires. Vous avez des files de 500, 800 personnes. Donc évidemment que ça ralentit. Tout le monde n'arrive plus au bureau à 9h, mais à 10h, parce qu'il a passé une heure à se faire fouiller son sac. Donc c'est un impact. Pour revenir sur la question du tourisme, évidemment que c'est un impact. C'est 5% du PIB 5%. Belge, donc c'est pas du tout anodin. Vous avez déjà les États-Unis qui déconseillent à leurs ressortissants de venir. Vous avez aussi le Foreign Office britannique qui l'a déconseillé cette semaine. Donc ça fait des mesures cumulées qui sont assez significatives, même si évidemment il faut attendre quelques mois pour avoir une vision plus réaliste.
Ça entraîne une baisse de productivité, l'arrêt des transports en commun, et puis les routes qui sont complètement déjà en temps normal. Bruxelles est une ville fort embouteillée. toutes les heures du jour et de la nuit, mais là vraiment la ville était complètement bloquée, difficile d'arriver à des rendez-vous. Donc c'est ce qui, Maya de la Baume, explique une baisse de la productivité de manière générale.
Mais moi, je me souviens surtout de la paralysie absolue de cette ville après les attentats de Paris. Pendant 3 jours, on a été dans une situation de paralysie totale. Personne n'est sorti de chez soi.
Et donc du là, coup, ça a créé. Vous parlez en fait de la fermeture de la ville quand elle est passée de Bruxelles, quand elle est passée au niveau d'alerte 4, ce qui a été appelé ici le lockdown, et le moment où les écoles, tout était fermé.
Absolument, je pense que personne ne sortait, donc personne n'est allé acheter, donc le chiffre d'affaires s'est retrouvé diminué, je pense, de moins 50%.
Oui, alors Bruno Wattenberg. Une entreprise bruxelloise sur deux a annoncé une baisse significative de chiffre d'affaires, cette baisse qui atteint jusqu'à 20% en novembre. On a aussi eu une entreprise sur 5 interrogée qui a dû recourir à ce qu'on appelle le chômage économique, l'impossibilité de travailler et de mettre ces travailleurs à ce moment-là en chômage économique.
Donc, on a recours au télétravail.
Toute mon équipe a télétravaillé cette semaine de manière à éviter les déplacements, et donc c'est clair que ça fera un grand impact sur la manière dont les entreprises vont appréhender le télétravail.
On va poursuivre notre discussion avec Maya de la Baume, Bruno Wattenberg et Charles de Marcy. On va parler du tourisme. C'était intéressant de voir ce chiffre. 10 millions d'euros par jour. Ça, c'était le coût de la fermeture. Rien que de l'aéroport, évidemment, un aéroport. C'est une cible de choix pour des terroristes parce qu'il y a un retentissement médiatique international avec des victimes originaires de nombreux pays. Je pense une 40aine de pays concernés par ces attaques cette semaine à Bruxelles. On va parler du renforcement de la sécurité et puis de l'augmentation des dépenses, que ce soit en France ou ici en Belgique, dans la sécurité et la défense. Et puis toutes les répercussions que ça peut avoir comme l'augmentation des primes d'assurance et puis de manière générale le climat d'incertitude. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, depuis le Parlement européen à Bruxelles.
Voilà, merci de nous retrouver à Bruxelles dans un studio différent cette semaine parce que nous n'avons pas pu avoir accès à notre studio habituel en raison des attentats. Les attentats qui ont frappé l'aéroport de Brussels Airport Zaventem ainsi que la station de métro Malbec qui se trouve à 200 mètres à peine du bureau BFM TV, BFM Business dans la capitale européenne. Avec nous aujourd'hui Maya de la Baume de Politico, Charles de Marcy de la Fondation Robert Schuman, Bruno Wattenberg de l'Agence bruxelloise de l'entreprise, également chroniqueur économique chez nos confrères de Belle RTL, la première radio généraliste francophone. Alors, on évoque aujourd'hui les conséquences économiques de ces attentats, économiques à court terme, également économiques à long terme. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que en France, par exemple, la progression des quartiers généraux de grands groupes internationaux, les installations en France de ces QG, que ce soit Monde ou Europe, sont en progression, passant de 16 en 2014 à 27 en 2015. Alors évidemment, les attentats ont lieu en novembre, le 13 novembre 2015. Malgré tout, ces sièges sont là. À titre d'exemple, Siemens a regroupé à Toulouse le siège mondial de ses activités de métro automatique, clé en main. Et puis, les investissements en France, qui sont au beau fixe. La Chine, qui a investi 3,5 milliards de dollars en France en 2015, soit plus qu'au Royaume-Uni ou en Allemagne. Bruno Wattenberg, vous êtes l'économiste de l'étape aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que cette tendance-là, c'est une tendance lourde, ou bien l'installation, l'établissement de quartiers généraux peut subir des conséquences après ces attentats dans cette zone, finalement, Bruxelles-Paris?
Alors, je pense pas qu'il faut avoir des craintes à court terme et à moyen terme. Il y a des raisons à venir à Paris et à Bruxelles. Paris est l'entrée pour un grand marché. Bruxelles, nous le marketons en tant qu'entrée sur le marché européen. Nous disons aux Chinois, vous voulez avoir une approche neutre du marché européen, venez vous installer à Bruxelles. Non seulement vous aurez cette image neutre, mais en plus, vous parlerez à 200 régions. Donc, ces éléments-là, ils vont...
Neutre, c'est qu'ils ne font pas le choix entre
L'Allemagne ou la France.
Entre l'Allemagne et la France, d'accord.
Exactement. Et donc aussi, à Bruxelles, vous rencontrez ces 200 bureaux régionaux. Vous avez facile à communiquer avec eux pour développer des activités. Donc ça, je n'ai pas de crainte à moyen ou à long terme. À court terme, ce qu'on peut craindre, c'est ce qu'on a entendu cette nuit avec des dépêches d'entreprises, notamment japonaises, Toyota, Fuji, qui disent qu'elles vont faire elles vont organiser leur meeting dans d'autres capitales européennes. Et donc, on va avoir pendant un certain temps.
Donc, elles avaient prévu des congrès ici à Bruxelles.
Oui, des assemblées générales ou des grandes conférences qu'elles vont déplacer. Il y aura donc une sorte d'effet d'éviction vers les autres capitales européennes. Et ça, c'est très mauvais puisque avec les 5% dont on parlait sur du PIB au niveau du tourisme, eh bien à ce moment-là, c'est très mauvais à court terme pour la Belgique, mais surtout pour la région de Bruxelles-Capitale.
Ouais, Charles, des annulations de visites à Bruxelles, qui est un hub européen, un vrai, véritable carrefour de l'Europe, et il y a aussi beaucoup de manifestations qui ont lieu ici.
Oui, déjà la manifestation, les différentes rencontres avec les institutions, les conférences que vous avez au Parlement européen, vous pouvez avoir au Comité des régions, au Conseil économique et social. On est entouré en fait d'institutions qui reçoivent tout le temps des groupes. Je devais recevoir mardi prochain un groupe d'étudiants américains qui viennent chaque année faire justement la tournée des institutions et qui, jeudi dernier, ont annulé. Jeudi matin, je reçois un email. Déjà, ils sont désolés, mais en plus, c'est un petit peu risqué. Et donc, on voit qu'il y a quand même cette anxiété et ça va quand même durer sur le moyen, long terme, parce qu'il faudrait un petit peu de temps pour récupérer cette confiance.
Et en plus, ça a un effet, j'imagine, Maya, sur l'ensemble de la zone, parce que parfois, les touristes, par exemple, américains, ils avaient peut-être décidé de venir à Bruxelles, pas des touristes en l'occurrence, mais je généralise, mais des visiteurs américains qui devaient arriver à Bruxelles et ensuite rayonner peut-être dans différentes capitales, dans d'autres pays voisins, et Maya, qui annulent leur visite, donc ça a des effets collatéraux, ça a des effets sur l'ensemble de la région.
Oui, non, bien sûr, et d'autant plus que, enfin, beaucoup de ministres ces derniers jours ont bien rappelé que cette menace terroriste, elle est là, elle est bien là, et elle va continuer dans les années à venir. Donc, j'imagine que ça doit pas non plus encourager les gens à venir en plus s'installer en Europe. Après, je sais pas, comme vous dites, à long terme, je ne sais pas quelles sont les conséquences, mais bon, c'est une menace.
Charles. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que pour les non-européens, si vous pensez aux Chinois ou aux Japonais, ils viennent pas que pour Bruxelles. Et donc, vous avez raison, ils viennent pour Bruxelles et les autres capitales européennes. Et si là, on commence à additionner, on a eu Madrid au début des années 2000, on a eu Londres, on a eu Paris deux fois l'année dernière, et on a Bruxelles maintenant, ça donne évidemment un critère anxiogène général sur le continent européen et pas seulement sur la Belgique.
Si on parle de l'augmentation des dépenses, donc évidemment, les augmentations de dépenses de sécurité pour protéger les différents sites, qu'ils soient public ou privé, avec différentes mesures, les portiques de sécurité, la fouille des sacs, notamment dans les transports en commun, à l'entrée des stations de métro à Bruxelles cette semaine, fouille, filtrage systématique de tous les sacs. Maya de la Baume, au niveau des augmentations de dépenses en termes de sécurité, quelles sont les mesures prises au niveau européen?
Mais moi, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une attaque, de toute façon, de cette ampleur-là, les responsables européens se mettent tous ensemble et décident de faire de nouvelles mesures ou alors de renforcer les mesures déjà existantes. Donc là, on a le même scénario, c'est-à-dire que les ministres vont se réunir et ils vont parler de ce qu'il faut absolument mettre en place. Et là, on a les mesures qui étaient les mesures qu'on avait il y a encore quelques mois. C'était le PNR, donc ce qu'on appelle Passenger Name Record, qui sont l'obligation pour les compagnies aériennes de transmettre les informations sur les passagers. On a les gardes frontières, on a toutes ces initiatives qui sont les unes derrière les autres et que maintenant, dans l'urgence, on doit absolument mettre en place. Donc, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses nouvelles après au niveau européen. On est plus sur mettons en place ce qu'on a déjà. Et des outils, on en a énormément.
Et au niveau des dépenses militaires, j'imagine, on commence à parler d'intervention, de renforcement, que ce soit en Syrie, en Irak. Il y a une logique aussi qui consiste à dire voilà, on va renforcer nos actions extérieures pour mieux se défendre. Et évidemment, ça engendre des coûts aussi, Charles.
Oui. Vous vous rappelez qui est-ce qui avait dit le pacte de sécurité l'emporte sur le pacte de stabilité au lendemain des attentats au mois
c'était
de novembre.
C'était François Hollande.
C'était François Hollande et qui justement a exprimait ce besoin d'investir sur ces questions de sécurité, de défense, d'agir sur le théâtre extérieur. J'ai rencontré il y a 15 jours, dans le cadre d'une fonction de la Fondation Robert Schuman, et dans une de nos publications, Gilles de Kharkov, qui est le coordinateur européen sur ces questions justement de renseignement, et qui disait que la plupart des outils existaient déjà, mais qu'il y avait beaucoup qu'il fallait soit renforcer, notamment l'échange d'informations. Ça ne sert à rien de recréer 150 nouveaux comités Théodule. On a déjà tout ce qu'il faut, mais il faut accentuer, et ça c'est une compétence et une volonté des États membres. membres. Et puis évidemment, la question du terrorisme joue sur deux niveaux. Un niveau interne, le renseignement, mais aussi un niveau extérieur. Et c'est là où c'est un peu novateur, parce qu'aujourd'hui, on additionne les budgets militaires individuels de chaque État membre pour ceux qui en ont et ceux qui souhaitent investir. Et on voit très bien qu'il va y avoir maintenant une tendance lourde, beaucoup plus forte, alors qu'on a plutôt désinvesti depuis une dizaine d'années pour justement réhabiliter ces questions tant de sécurité que de défense.
Bruno Wattenberg, vous évoquiez tout à l'heure le chiffre de 600 millions de dépenses liées à la sécurité prévue dans le budget français en matière de sécurité.
Alors, on a constaté en Belgique que les militaires en ville, parce que nous, on ne connaissait pas ça, Vigipirate, vous aviez l'habitude d'avoir vos militaires en ville. Nous, c'était quelque chose de relativement nouveau. Eh bien, ça a généré plusieurs dizaines de millions. On était, à une somme extrêmement importante fin de l'année. Et on savait très bien qu'on n'avait pas les moyens pour pouvoir aller plus loin. Donc, ce qui est en train de se passer maintenant va avoir plusieurs conséquences économiques. Tout d'abord, au niveau de la stimulation de la consommation en matière de dépenses de sécurité, très certainement. Mais le problème, c'est que l'offre n'est pas élastique. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir demain un doublement des gardes privés dans les rues parce que tout simplement ils ne sont pas formés, ils ne sont pas disponibles. Donc il va y avoir un petit battement avant qu'on puisse, mais il est certain que les dépenses de sécurité et que l'offre de sécurité va considérablement augmenter comme c'est le cas en France aujourd'hui. Le deuxième élément économique, c'est qu'on va aller de plus en plus vers une privatisation de certaines activités de police de manière à pouvoir consacrer un maximum d'énergie et de compétences au véritable travail de police. Et ça va faire des débats de société. Ça, on a déjà fait depuis les attentats de Paris, puisque c'est des dossiers qui ont été mis sur la table. Dernière petite anecdote sur le PNR. Je discutais avec le ministre Rendercière, qui m'expliquait que les ambassades voulaient...
Qui est le ministre des Affaires étrangères.
Exactement. Et les ambassades le contactaient pour savoir qui étaient les victimes présumées, qui étaient au comptoir. Eh bien, si on avait eu un PNR, il aurait été beaucoup plus facile de pouvoir identifier ces victimes. Et je pense que le dossier du PNR, maintenant, on va revenir
extra. Alors, le PNR, le Passenger Name Record, pourquoi les Européens ne sont pas parvenus jusqu'ici à s'entendre pour le mettre en œuvre? Le PNR, c'est le relevé des informations concernant les voyageurs aériens et du coup, on se retrouve avec les données bancaires, le lieu de voyage, le lieu de départ, la destination, les préférences alimentaires, toutes les informations que détiennent les compagnies aériennes et qui aujourd'hui sont plus ou moins jalousement gardées dans chaque pays. Donc, il y a déjà plusieurs pays, dont la France, qui ont mis en œuvre, en place, leur propre fichier PNR national. Mais ça n'a pas encore été mis en réseau. Et c'est ça la décision qui doit être prise. Et les eurodéputés, certains eurodéputés, bloquent. Pourquoi ? Charles ?
C'est le principe de liberté contre sécurité. Qu'est-ce que vous êtes prêt à laisser en termes de liberté pour avoir davantage de sécurité ? Ça pose deux sous-questions. La première, c'est est-ce que le PNR est un remède miracle ? La réponse est non. Est-ce que ça aurait évité ce qui s'est passé la semaine dernière ?
C'est juste un élément concret et que l'on n'arrive pas à débloquer.
Non, et on n'arrive pas à débloquer pour justement cette question qui est presque supranationale, de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en commun de façon collective. Et donc là, évidemment, vous avez un transfert de données, mais qui va beaucoup plus loin. Si on prend par exemple, si on est tous les deux à Bruxelles et qu'on échange par une application telle que WhatsApp, si les renseignements veulent avoir accès à ces informations, ils doivent demander à une entreprise qui est basée en Californie, mais pas sous une règle européenne, sous une règle californienne. Donc ça pose un ensemble de questions, c'est qui détient ces données ? On voit très bien que dans certains cas de figure, ce sont les États, mais pas seulement. Ça peut être les compagnies aériennes ou ça peut être ces géants de l'Internet. Puis après, comment est-ce qu'on y a accès ? Et puis après, comment est-ce qu'on peut le traiter ? Et donc tant qu'on n'aura pas une vision d'ensemble sur ces trois paramètres, oui, le PNR, c'est pas un gadget, mais c'est juste une toute petite partie qui, en tout cas, répondra pas à l'ensemble de ces éléments. Et c'est pour ça qu'il y a un blocage politique dessus. Parce qu'ils appuient là-dessus sur, on répond sur l'ensemble de ces problématiques et après, on débloquera le PNR.
Bruno Wattenberg.
Charles souligne le débat qui va s'intensifier, qui va se cristalliser maintenant entre la vie privée et la sécurité. Et là, chacun en âme et conscience jugera et je pense que le débat va évoluer sur le PNR au Parlement.
Il ne faut pas seulement sur l'émotion. Parce que c'est trop important pour être géré que par l'émotion.
Mmh. Alors après la pause, justement, nous allons revenir sur les instruments, sur les possibilités de l'Union européenne face aux terroristes. Tout le monde dit qu'il n'y a qu'une solution européenne qui peut nous permettre d'arriver à bout de ce fléau. Or, les Européens ont beaucoup de mal à s'entendre. On y revient notamment dans le cadre des coulisses de l'Europe, de Maya de la Baume de Politico, et puis dans le cadre de la revue de presse européenne avec notre partenaire Courrier International et Éric Scholl. Nous serons toujours en compagnie de Charles de Marcilly, de la Fondation Robert Schuman, de Bruno Wattenberg, de Impulse et de Bell RTL, ainsi que de Maya de la Baume. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann Anthony Noguès.
Voilà, merci de nous retrouver à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens, évidemment consacré à ces attentats en plein cœur de la capitale européenne cette semaine. Toujours avec nous Maya de la Baume de Politico, Charles de Marcy de la Fondation Robert Schuman et Bruno Wattenberg de l'agence bruxelloise de l'entreprise, également chroniqueur économique sur Bell RTL, la première radio francophone belge. Aujourd'hui, nous parlons des conséquences économiques du terrorisme, fort de l'expérience, malheureusement, des deux attentats en 2015 en France, ainsi que eh bien maintenant de cet attentat du 22 mars 2016 ici à Bruxelles. Dans les coulisses de l'Europe, avec Maya de Politico, nous allons revenir sur cette union de la sécurité appelée par Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, et puis tout à l'heure, nous serons rejoints par Éric Scholl, le patron de la rédaction de Courrier International, qui va nous faire une revue de presse des réactions européennes à ces attentats. Voilà le programme de cette deuxième partie de 500 millions d'Européens pour réagir. Hashtag 500ME.
BFM Business, avec 500 millions d'Européens, pénétrés dans les coulisses de l'Europe.
Voilà, pénétrons dans les coulisses de l'Europe avec vous, Maya de Politico. Donc Jean-Claude Juncker, le luxembourgeois, le président de la Commission européenne, qui disait que cette semaine, après les attentats, que l'Union européenne a véritablement besoin d'une union de la sécurité.
Oui, alors Juncker l'avait déjà dit avant et il est dans son rôle quand il dit justement qu'il faut créer une union de la sécurité. Le problème, c'est que fondamentalement, la sécurité est une question nationale. Donc, il est très difficile aujourd'hui de renforcer la coopération pour quelque chose qui est fondamentalement une préoccupation des gouvernements. Après, il est aussi dans son rôle pour essayer de renforcer la coopération, et tous les ministres viennent à chaque fois qu'il y a un attentat, le ministre de l'Intérieur, de la Justice. Mais la vérité, c'est que on peut coopérer au niveau de la police, parce que ça arrive, et aujourd'hui, après les attentats maintenant, on a des équipes communes de policiers qui sont là. Il y a des Britanniques, il y a des Italiens peut-être, surtout des Britanniques, mais il n'y a pas de coopération au niveau du renseignement, et ça c'est normal, puisque le renseignement, c'est par définition une affaire privé, et ça concerne un gouvernement. Donc, voilà, Juncker a raison de dire.
Dans la logique, le renseignement, il faut après distinguer, j'imagine, ce qui relève du secret ou pas. Dès qu'on est dans le domaine du secret, c'est vrai qu'il y a une difficulté de la part des différentes autorités nationales en Europe à partager l'information. Parce que quand une autorité dispose d'une information, ça reste secret. Quand deux autorités disposent d'une information, ça peut rester encore secret, parce qu'on sait lequel des deux peut lâcher l'information. Mais dès qu'on est trois, là, il y a une inconnue, et du coup, à 28, c'est très difficile de partager véritablement un secret, de conserver une information secrète. En revanche, il y a quand même tout plein d'informations qui ne relèvent pas véritablement du secret et qui pourraient être mieux partagées tout de même. Alors pourquoi les différentes autorités du renseignement national ont un tel problème à partager l'information ?
Mais il y a surtout beaucoup d'outils européens. On a Europol, on a Eurojust.
Europol fait quoi, en deux mots ?
C'est justement censé être du partage d'informations, normalement au niveau policier et renseignement. Le problème aujourd'hui, et le directeur d'Europol le dit très souvent, c'est que on a du mal à faire en sorte qu'on partage en Europe l'information.
D'accord. Eurojust fait quoi ?
Eurojust, ce sont les procureurs, ce sont tout l'aspect, le système judiciaire, les coopérations judiciaires, en fait.
D'accord. Et vous parliez tout à l'heure, Charles, de Gilles de Kerckhove, le Belge, qui est le coordinateur européen de la lutte contre le terrorisme. Et lui, il fait quoi ?
Ben justement, il coordonne ces différentes actions et bonnes volontés. Il sait très bien que ça ne va pas être du multilatéral absolu, parce que c'est pas possible. À 28, déjà, l'ensemble des États ne sont pas concernés. On voit évidemment qu'il y a des filières quand on regarde le parcours des différents terroristes.
Quand vous dites pas concernés, c'est parce qu'il y a certains pays qui peuvent quand même servir de passage.
Donc toute la question, c'est à quel moment est-ce qu'on va mettre en commun sur certains profils type. Si vous le faites sur tout et sur tout le monde, c'est ingérable. Déjà, au niveau d'un État, ils n'arrivent pas à suivre l'ensemble des profils qu'ils devraient suivre. Et on le voit, pour suivre quelqu'un à temps plein, sur écoute et de façon vraiment globale, pour une personne, il faut 20 personnes. Donc c'est un coût significatif. L'ensemble des États membres de l'Union européenne n'ont pas ce coût, n'ont pas cette capacité à pouvoir aller aussi loin, surtout face à la masse de personnes ou personnalités qu'il faudrait suivre. Donc ils se retrouvent à avoir des demandes bilatérales, voire parfois multilatérales, mais qui vont engager 3 ou 4 pays et pour essayer de retrouver le parcours de ces différentes personnalités. Et puis on y arrive après. Le problème, c'est évidemment qu'il faut l'anticiper, savoir que quelqu'un est passé par la Turquie, puis après par la Grèce, qu'il a fait un tour par la Hongrie, qu'il est revenu en passant par l'Autriche, pour finalement arriver et se faire exploser à Bruxelles. Est-ce qu'il faut demander à l'ensemble des autorités, à un moment, comment est-ce qu'on trouve qui fait quoi? Si vous ne signalez pas cette personne et qu'elle n'est pas déjà fichée, c'est impossible, il laisse passer. Donc vous avez ce problème en fait sur le renseignement, de penser que parce qu'on va tout mettre chacun sur la table, que ça va aller mieux. Si on ne peut pas gérer cette information, ça n'ira pas mieux.
Bruno Wattenberg.
Alors au niveau justice, ça se passe pas mal. Quand on a vu l'intimité qui existait manifestement entre le procureur du roi de Bruxelles et celui de Paris, manifestement c'est des gens qui se connaissent, qui travaillent entre eux régulièrement. L'autre problème qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la confiance. Je discutais hier matin avec la Sûreté de l'État, c'est vos renseignements généraux en France, et ce qu'on m'expliquait, c'est très clairement qu'il y a des pays avec lequel on ne veut pas partager des informations confidentielles parce qu'on pense que c'est les autorités ou la police ou les renseignements de ces pays ne sont pas entièrement fiables pour toute une série de bonnes ou de mauvaises raisons. Donc ce problème de confiance, il reste un élément bloquant.
Des pays de l'ancien bloc soviétique, on sait que tout de suite, dès qu'on leur donne des informations, ça va repartir vers le Kremlin immédiatement. C'est à ça que
c'est ce qui a été évoqué. Est-ce que les Danois ont expliqué? Il y a des pays avec lesquels on ne veut pas partager de l'information.
Quelle coopération peut avoir aujourd'hui avec certains pays des Balkans? Vous avez une vraie difficulté. Regardez l'ensemble des documents de la Commission sur l'état de droit sur certains pays. Vous voyez très bien que les Français ou les Belges...
Alors on a besoin, par exemple, de collaborer avec eux pour lutter contre le trafic d'armes.
Par exemple. Mais la sécurité de ce type d'informations qui sont hautement sensibles, qui peuvent permettre d'anticiper des attentats, vous avez aujourd'hui un vrai problème de confiance mutuelle.
Maya.
Et pour les Balkans, le terrorisme est très important. C'est pas que le trafic d'armes, justement. Des pays comme la Macédoine deviennent des plateformes... de terrorisme, donc on a besoin justement de partager des informations avec
L'Union européenne, qui d'une les pays n'avancent pas et ne parlent pas d'une seule voix, vous l'avez dit, Charles, et qui plus est, la France et la Belgique, on a vu, Bruno Wattenberg, je me tourne vers vous, je ne sais pas comment vous avez vécu ça avec votre sensibilité de Belge, mais les Français qui ont allègrement ouvertement critiqué le travail des autorités belges ces derniers temps. On a encore entendu, j'étais très surpris, mardi soir, le soir même des attentats, Michel Sapin qui parle de naïveté quand il évoque l'approche belge face au terrorisme.
Alors on peut renvoyer la balle, mais ce serait stupide. On pourrait parler de Mohamed Merah, on pourrait parler de Nemouche avec l'attentat au musée juif. En fait, il y a un petit peu...
Parce que vous dites qu'ils sont de nationalité française.
Tout à fait, ils sont venus de France, et donc il faut pas se leurrer. On a une communauté francophone du Maghreb qui est présente à la fois en France, avec peut-être plus d'Algériens que de Marocains. Nous, on a beaucoup plus de Marocains et de Tunisiens. Ces communautés, elles obéissent aux mêmes dynamiques. La différence, c'est que nous sommes parvenus, jusqu'il y a peu, à éviter la ghettoisation. On n'a pas créé des cités qui sont parfois devenues des zones de non-droit comme ça, c'est arrivé en France, mais on a un pourrissement lent dans certains quartiers d'une présence de petites poches radicales où il est extrêmement difficile d'effectuer des contrôles.
Hillary Clinton, également côté américain, a critiqué l'attitude de l'Europe, la candidate à la Maison-Blanche, qui a critiqué les pays membres de l'UE pour leur désorganisation et leur retard dans la réponse aux menaces djihadistes. Je la cite, « L'Amérique a besoin que les services de renseignement européens travaillent main dans la main avec les nôtres, y compris là où ils ont plus d'accès et d'expertise, comme en Afrique du Nord. Nous avons besoin que les banques européennes cessent de financer le terrorisme. » Ça, c'est une mesure qui a été prise au niveau européen. Est-ce qu'elle est déjà en place? Non. Nous avons besoin que les avions européens, dit toujours Hillary Clinton, mettent des missions en Irak et en Syrie et que les forces spéciales européennes participent à la formation et à l'équipement des forces locales anti-État islamique sur le terrain. Pour revenir sur le financement du terrorisme, Charles, on avait d'ailleurs consacré une émission de 500 millions d'Européens à ces mesures européennes.
Oui, on avait consacré une émission qui concluait qu'évidemment que cette bonne volonté doit venir d'un point de vue collectif, parce que si vous avez un État tout seul qui prend ce type de mesures, c'est pas suffisant. Vous faites 300 kilomètres, et puis vous êtes au Luxembourg, vous êtes en France, si vous partez de Bruxelles. Donc évidemment que la réponse est collective et commune. Là où on peut le regretter, c'est qu'on a toujours le sentiment que ça arrive après. Donc, on est en train de le faire. Il faut apprendre aussi à vivre avec cette menace terroriste et le risque zéro n'existe pas. On est en train de concevoir ces différents outils, qu'ils soient sur le financement, qu'ils soient aussi sur l'approche de radicalisation et de déradicalisation. Cette approche collective pour pouvoir aussi réagir de façon commune face aux géants d'Internet et avoir un moyen de pression. Quel est le poids réel aujourd'hui de la Belgique face à Google? Alors, on le voit sur les questions fiscales, mais c'est très limité. C'est anecdotique. Donc, alors que si c'est l'ensemble des 500 millions d'Européens qui sont un poids réel, que ce soit commercial ou politique, et donc l'Europe là-dessus doit jouer son rôle. Et je crois que c'est là où elle doit servir de plateforme et de levier politique face à ces différents enjeux.
Et quand Hillary Clinton dit qu'il faut que les banques européennes cessent de financer le terrorisme, le pire c'est qu'on ne parle pas de sommes colossales. On l'a vu dans les attentats à Paris, ce sont de simples cofidis, c'est du crédit à la consommation qui a permis à ces terroristes d'acheter des armes.
30 000 euros, c'est le budget pour les attentats de Paris, a priori, c'est ce qui est sorti dans la presse. Alors l'autre élément qui me fait un petit peu sourire, c'est nos amis américains, et j'aime beaucoup les États-Unis, j'ai étudié là-bas, ils ont appris en 2001, ils ont 15 ans d'avance.
Harvard d'ailleurs.
Oui, ils ont 15 ans d'avance, pourquoi ? Parce que en 2001, les terroristes dormaient chez des informateurs du FBI, ils ne savaient pas. Donc ça veut dire qu'ils avaient une organisation en silo à l'époque qui ne permettait pas le transfert d'informations d'un silo à l'autre. Entre-temps, ils se sont considérablement réorganisés. Donc effectivement, apprenons de ce qui de ce qui s'est passé, et je pense que on doit s'améliorer en Belgique, et il y a peut-être une complexité institutionnelle qui ne facilite pas le transfert d'informations. Il faut régler ça, mais à côté de ça, l'Europe a certainement un rôle à jouer à partir du moment où nous devons dialoguer avec les Américains, avec les Russes. C'est très compliqué de le faire avec 28 moteurs qui ont des dynamiques fort différentes.
Maya, pour conclure sur ce point, sur la coordination européenne.
Oui, et hormis le PNR et hormis le financement du terrorisme, il y a aussi surtout, je pense, le renforcement des frontières extérieures qui est un des aspects les plus importants aujourd'hui. Et il y a cette mesure de création des gardes-frontières qui devrait normalement être appliquée bientôt, et on attend encore parce qu'on attend beaucoup ici.
Voilà, merci Maya. Tout de suite, la revue de presse européenne.
BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
Voilà, la revue de presse européenne avec notre partenaire Courrier International. Bonjour Éric Scholl.
Bonjour Yann-Anthony.
Voilà Éric Scholl, le directeur de la rédaction de Courrier International. Merci d'être avec nous en ligne depuis Paris. Alors, la presse européenne, évidemment, a largement réagi à cette actualité des attentats terroristes ici dans la capitale européenne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que selon les éditorialistes, eh bien l'Europe est jugée inefficace. On y revient dans sa lutte contre le terrorisme, et c'est notamment le cas dans la presse madrilène.
Oui, El País a publié au lendemain des attentats un petit billet très dur sur l'Europe. Quand les terroristes attaquent l'Europe en majuscule, celle-ci réagit en minuscule. C'est ce qu'écrit José Ignacio Torreblanca, et c'est dans El País. Alors pour le journaliste espagnol, en fait, les choses sont très claires. L'Europe est attaquée, mais elle ne réagit pas de manière appropriée. Et il prend un exemple qui peut paraître un peu technique, car il rentre dans la cuisine institutionnelle de l'Europe. Il cite plusieurs articles du traité de fondateur d'Europe. Et au fond, je vais vous épargner les articles, ce qu'il dit, c'est que la France a fait cavalier seul, au nom de la souveraineté nationale, là où l'Europe aurait dû adopter une réaction commune.
Voilà, Charles de Marcy, la France qui a fait cavalier seul dans sa gestion des attentats terroristes.
Oui, mais c'est la gestion de crise, la réponse est un modèle qui aujourd'hui est adapté au niveau national, parce que les outils sont nationaux et que l'Union européenne, dans sa conception, n'est pas faite pour cette gestion de crise. Mmh. Donc évidemment qu'elle a toujours, malheureusement, un temps de retard.
Direction cette fois l'Italie, toujours avec vous Eric, où les critiques sur l'Europe sont également très fortes.
Oui, c'est le quotidien italien Il Sole qui évoque l'échec des services de renseignement de la Belgique, mais aussi de l'Europe, hein, avec un constat très dur sur les mauvaises réponses de l'Europe. Je cite le journaliste Il Sole. Si le terrorisme est aussi efficace, c'est parce que trop souvent, on regarde à l'extérieur de nos frontières avec nos drones, nos frappes aériennes, ce qui est un choix risqué, insiste le journaliste italien. D'ailleurs, pour lui, c'est bien simple. la lutte contre les terroristes n'a pas véritablement commencé, écrit-il dans son journal.
Voilà, donc la lutte contre le terrorisme qui n'a pas commencé chez nous et on ne fait que regarder les problèmes ailleurs, que ce soit à l'extérieur des frontières de l'Union européenne ou même à l'extérieur de ses propres frontières. On y revient à ces bisbilles entre Paris et Bruxelles encore cette semaine et puis les semaines précédentes. Et puis direction Londres, enfin avec vous, Eric, vous avez retrouvé un article paru alors en novembre dernier, mais qui était très éclairant et qui l'est toujours, surtout depuis qu'on connaît l'identité des kamikazes ici à Bruxelles.
Oui, Anthony, il s'agit d'un article du Guardian qui était paru juste après les attaques de Paris du 13 novembre. Et le journaliste britannique s'interroge pourquoi les attentats sont-ils souvent perpétrés par des frères. Car rappelez-vous, avant donc les frères El Bakraoui à Bruxelles, il y a eu Salah et Brahim Abdeslam qui donc étaient impliqués dans ces attaques contre Paris. Il y a eu les frères Kouachi, cette fois-ci c'était contre Charlie Hebdo. Et puis si on remonte un peu, les frères Tsarnaev, c'était à Boston et en 2013. Le journaliste du Guardian apporte quelques réponses. Il cite une étude américaine selon laquelle un quart des djihadistes occidentaux ont un membre de leur famille ou de leur belle-famille impliqué dans le djihad ou qui a déjà participé au djihad. Et il évoque donc cette dimension de djihad familial. Aussi étonnant que ça puisse paraître, le terrorisme, écrit-il, est extrêmement social et c'est peut-être une des découvertes de ces nouvelles attaques de Bruxelles.
Voilà, le terrorisme est social et on sent cette forme de contagion familiale, visiblement, dans le terrorisme. C'est vrai que c'est frappant le fait de voir ces frères, ces tandems de frères qui se reproduisent, que ce soit les Kouachi, Abdeslam, El Bakraoui. Sachant que moi, j'avais quand même rencontré l'un des frères Abdeslam, Mohamed Abdeslam, pour une interview sur BFM TV. Et lui, a priori, ne paraissait pas du tout radicalisé, donc c'était juste une poche entre Salah Abdeslam et Brahim Abdeslam. Merci beaucoup Bruno Wattenberg d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous dirigez l'agence bruxelloise de l'entreprise et que vous êtes chroniqueur économique. Je vous écoute tous les matins en fait. Brillant chroniqueur économique sur les antennes de Bell RTL, la radio privée francophone belge. Je ne vous oublie pas, merci beaucoup, Eric Scholl, pour votre revue de presse.
Merci, Anne-Anthony, à la semaine prochaine.
Voilà, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Maya de la Baume, pour vos chroniques de l'Europe. Maya de la Baume de Politico. Merci, Charles de Marcy, de la Fondation Robert Schuman. On se retrouve après une semaine très particulière. On se retrouve la semaine prochaine et les semaines suivantes pour de nouvelles aventures. Et puis, on va se ressaisir et on va pas se laisser marcher sur les pieds par une bande de paumés qui nous cible à l'aveugle. Voilà, merci d'avoir suivi cette nouvelle édition de 500 millions d'Européens exceptionnellement cette semaine dans le studio d'Euranet. Merci à Michel Voros et François Demuth de l'avoir réalisé parce que nous n'avions pas accès à notre studio habituel en raison des attentats au cœur du quartier européen. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens, toujours préparé par le brillantissime Alexandre Rougier. D'ici là, restez à l'écoute de BFM Business.